Radio Kapi.
Les informations, Belinda Bosuma.
L'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains recommande au gouvernement d'abandonner carrément son projet d'exploitation du pétrole dans les zones sensibles. Elle réagit ainsi à l'annulation par le gouvernement de la vente aux enchères de 27 blocs pétroliers. Lancement hier à Kinshasa du projet de protection du bonobo contre la criminalité faunique, projet lancé par la Société Plantation et Huilerie du Congo, PAC. C'est pour lutter contre l'extermination de l'espèce bonobo en proie au braconnage, explique la directrice générale de cette entreprise. Et puis, ce matin, nous recevons Mame Mandiaï Niang, procureur adjoint de la Cour pénale internationale. Il revient sur la décision portant réactivation des enquêtes par la CPI sur les crimes présumés relevant du statut de Rome, crimes commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. À tous et à toutes, bonjour. Nous commençons par le Nord Kivu. L'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, ACDH, recommande au gouvernement d'abandonner carrément son projet d'exploitation du pétrole, en particulier dans les zones sensibles. L'ACDH réagit ainsi à l'annulation par le ministère congolais des hydrocarbures de la vente aux enchères de 27 blocs pétroliers. Pour cette ONG, l'économie verte devrait être privilégiée en lieu et place des énergies fossiles. Bernardin Nyangi.
Alors que dans ce communiqué du 11 octobre, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi, annonce avoir mis en place un mécanisme de relance incessamment de cette vente aux enchères de 27 blocs pétroliers, le secrétaire exécutif de la CDH demande que l'annulation soit étendue aux trois blocs gaziers du lac Kivu concernés par la même procédure, maître Olivier Ndolé.
Nous saluons le fait d'avoir annulé ce processus. Néanmoins, pour les blocs gaziers et pour les blocs pétroliers, c'était un seul processus et du fait que le processus était entaché de l'opacité, il est de droit que tout soit annulé parce que la fraude corrompt tout.
Celui-ci estime que la priorité devrait être accordée aux énergies propres.
C'est une nouvelle page historique pour la RDC, pour une politique qui tourne beaucoup plus la page vers l'abandon des énergies fossiles où notre pays se retrouve au sommet de toutes les négociations climatiques comme pays solution, un pays où la solution par rapport à la transition énergétique se repose à ses épaules.
Depuis son lancement fin juillet 2022, cette vente aux enchères avait fortement été contestée par les activistes de l'environnement. Sur le 27 blocs pétroliers figurent les blocs 5 et 4 situés au cœur du parc national de Virunga, ce qu'ils jugent être une menace pour ce site du patrimoine mondial. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans la province du Haut-Katanga, les chauffeurs membres de l'Union nationale pour la protection des camionneurs dénoncent la multiplicité des taxes sur le tronçon Lubumbashi-Likasi. D'après eux, cet état de choses les asphyxie. Ils plaident auprès des autorités pour que cette situation soit revue, notamment le parking obligatoire érigé sur la route de contournement à Likasi. Pour sa part, le maire de Likasi indique que ce parking a été érigé pour lutter contre les embouteillages que créent ces camions sur la voie publique. D'après Henri Mungo, ce n'est pas la mairie qui a instauré le péage, notant selon les camionneurs que le gouverneur du Haut-Katanga, qui est passé par cette route au moment où ils observaient l'arrêt de travail le mardi, a suspendu le passage obligatoire dans ce parking. Rendons-nous dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Les travaux de réouverture de l'axe routier Kambatou-Lemwenda, situé dans le groupement de Bolema, avancent à grands pas, lancé le week-end dernier par l'organisation Solidarité pour les actions de développement intégral en RDC. Ces travaux, réalisés par des personnes de bonne volonté, consistent au gravelage et à l'entretien de ce tronçon de 22 km, essentiel pour la desserte agricole. Selon Mele Kimula, la coordonnateur de la nouvelle société civile dans le secteur de Rwenzori, la réouverture de cet axe est d'une importance capitale, tant sur le plan économique que sécuritaire. Elle permettra de désenclaver plus de 5 localités agricoles et facilitera l'évacuation des produits vers les centres de consommation ainsi que les mouvements des militaires dans cette zone stratégique. Mele Kimulala, joint par Marc Marofimo.
Cette route
a une importance capitale parce que c'est l'unique principal qui quitte Kambatoulé jusqu'à Mwenda. Donc il y a des brèches. Avant d'atteindre votre chat, vous devez d'abord passer par cette route afin d'atteindre les différents axes. Mais aussi cette route facilite les opérations parce que nous sommes dans une zone opérationnelle. Donc pour aller intervenir à Mwenda, soit à Kambatoulé, là où vous appelez Kalembo, il faut d'abord trouver une route qui est entretenue afin d'aller intervenir vite, vite. C'est pourquoi cette association s'est engagée dans cette route afin de faciliter les usagers de cette ressort, même les gens de Beni, même les gens de Kassindi, même les gens d'Owicha, tout le monde qui fréquente le secteur Wenzori, à passer par Mutuanga, soit à passer par Kalembo pour Mutuanga, Mutuanga pour Mwenda, doit fréquenter cette route parce que c'est la route principale qui quitte Kambatoulé jusqu'à Mwenda.
Notons, selon Meleki Mulala, que cette route est impraticable depuis plus de 2 ans en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Sa réhabilitation est rendue possible grâce à l'évolution positive des opérations militaires grâce auxquelles la zone connaît une accalmie depuis environ 6 mois. En Ituri, les femmes rurales décident de déplacer à Bunia mènent une lutte quotidienne contre des conditions de vie difficiles causées par les violences persistantes des groupes armés dans cette province. Confrontées à des manques de nourriture, des soins médicaux et de logements adéquats, elles se tournent souvent vers des petits commerces sur place, générant des revenus insuffisants pour subvenir aux besoins de leurs familles. À l'occasion de la journée de la femme rurale célébrée le 15 octobre, Ezekiel Mouzalia est allé à leur rencontre. Voici son reportage.
Assise devant sa petite maison en bâche et sous un ciel menaçant dans le site des déplacés de Kigonze, Clémentine Vechou se remémore avec nostalgie les jours où elle récoltait de quoi nourrir sa famille dans son village de Bloukwa. Aujourd'hui, elle confectionne et vend des boules et des déchets de braise à 100 ou 200 francs congolais juste pour nourrir ses enfants. Elle raconte son quotidien.
Nous cultivions les champs avant. Aujourd'hui, nous confectionnons des boules de déchets de braise que nous vendons à 100 francs et un copar coûte 2000 francs.
Non loin de là, nous rencontrons Estella Avolé, une autre survivante de ces camps. Comme Clémentine, elle vend des produits, des récupérations pour faire vivre sa famille. Elle explique comment elle s'y prend pour les nourrir.
Ce sont mes amis qui m'ont montré cette technique pour survivre. J'achète un gobelet de farine de maïs, puis je fais la bouillie pour les enfants. Je ramasse des amarettes sauvages et les enfants ont de quoi manger.
Ces femmes qui ont tout perdu à cause des attaques armées lancent un appel au gouvernement pour rétablir la sécurité dans leur village afin de retrouver une vie digne et garantir une éducation à leurs enfants. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous le disais en titre, la société Plantation et Huilerie du Congo PAC lance le projet de protection du bonobo contre la criminalité faunique. Ce projet sera exécuté par la Fondation PAC en partenariat avec le Centre de recherche en écologie et foresterie. Au cours de la cérémonie de la signature de ce partenariat hier à Kinshasa, Monique Gieskes, directrice générale de cette entreprise agricole, a indiqué que le bonobo est une espèce qui est en danger à cause du braconnage et pour lutter contre son extermination, PAC s'engage à accompagner les communautés riveraines dans la création des activités économiques. Grâce à Mzati.
Le bonobo, dont 95% du patrimoine génétique est identique à celui de l'être humain, ne vit qu'en RDC dans une zone d'environ 500 000 km², complètement circonscrite entre le fleuve Congo et la rivière Kasaï. Cependant, cette espèce fait face à des menaces critiques, déclare Madame Monique Gieskes.
C'est un trésor pour la biodiversité mondiale et un patrimoine inestimable pour les scientifiques qui étudient la biologie de l'être humain. Le braconnage et la destruction de son habitat naturel par la pratique de l'agriculture sur brûlis menacent gravement sa survie. Et sans action immédiate et concrète, la population de bonobos risque de connaître un déclin irréversible, pouvant aller jusqu'à l'extinction dans les années à venir. C'est ce que prédisent les scientifiques. Cette initiative vise à offrir des alternatives économiques durables aux communautés locales qui vivent à proximité des bonobos. Et plutôt que de recourir au braconnage, ces communautés seront encouragées à adopter des activités génératrices de revenus et respectueuses de l'environnement.
Signalons que par la même occasion, la société PHC a également signé un protocole d'entente avec l'organisation Save Tomorrow dans le cadre de sa stratégie vers une croissance verte et inclusive pour le développement durable en RDC.
Et puis, le réseau Caritas en RDC, plus efficace et plus solidaire pour construire ensemble des communautés résilientes et florissantes. C'est le thème du 5e forum national de ce réseau, ouvert hier à Kinshasa. Il réunit les membres de toutes les 48 communautés Caritas Développement diocésaines de la RDC, ainsi que les partenaires techniques et financiers du réseau Caritas International et des Nations Unies. Cette grande rencontre s'est vue un espace de réflexion et d'échange sur les préoccupations du réseau Caritas en RDC. Objectif, valider et s'approprier des orientations stratégiques et des actions prioritaires pour la période de janvier 2025 à décembre 2030. Étienne Lissoumbo nous en dit plus.
Premier à prendre la parole, Monseigneur François Abel Mouya, président du conseil d'administration de Caritas Congo, a dans son mot d'ouverture précisé à l'intention des participants le pourquoi de la tenue de ce 5e forum.
Il sera essentiellement question pour les participants du mot de s'approprier davantage la vision du secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBL qui leur avait été présenté lors des différentes rencontres, visites de solidarité et rencontres de Caritas dans les 6 provinces.
Le secrétaire général exécutif, quant à lui, a plaidé pour la mise en place d'un plan stratégique de la vision de Caritas Congo. À l'issue de ses travaux, Abbé Edouard Makimba.
Il convient de mentionner dès à présent que la mise en œuvre de ce plan stratégique se fera en deux périodes de 3 ans, à savoir 2025-2027 et 2028-2030. Et à la fin de chaque période, nous serons conduits à un exercice d'évaluation participative afin de nous assurer des progrès réalisés et, si nécessaire, à procéder à quelques réajustements en vue d'atteindre l'impact final.
Signalons que 48 diocèses prennent part à ces rendez-vous dont la clôture est programmée pour ce vendredi.
Dans l'actualité aussi, l'école de formation électorale en Afrique centrale, FAC en sigle, recommande à la CENI de garder un fichier électoral permanent pour les prochains cycles électoraux et d'utiliser le matériel restant des cycles précédents comme on le fait dans d'autres pays, signale cette organisation. Recommandation faite hier à Kinshasa par le secrétaire général administratif et financier de l'FAC et ancien rapporteur de la CEI à l'occasion de la double cérémonie de remise des certificats d'études avancées et la collation des grades académiques du master professionnel. Pour Dieudonné Mirimo, ancien rapporteur de la CEI, l'ambition de l'FAC est de professionnaliser les membres des parties prenantes au processus électoral en RDC en vue de réduire et d'éviter les conflits post-électoraux récurrents en RDC. Dieudonné Mirimo, au micro de Jean-Désiré Kanyama.
En observant les élections comme personnes ressources, ils ont constaté les failles et ils ont initié des recommandations que nous espérons bien seront appliquées par les différentes parties prenantes, surtout la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les recommandations, c'est qu'il faudrait notamment qu'on puisse avoir un fichier électoral permanent pour éviter à chaque fois qu'on puisse dépenser beaucoup de milliers de dollars pour l'inscription et l'enregistrement des électeurs. Vous avez vu que les cartes d'électeurs qui ont été distribuées sont de très 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 mauvaise qualité et ça a coûté beaucoup de millions à la République démocratique du Congo. On ne peut pas à chaque fois renouveler le matériel parce que ce qui a été utilisé au cycle précédent peut être utilisé au prochain cycle comme on le fait dans d'autres pays. Le FEAC a l'ambition de professionnaliser toutes les parties prenantes au processus électoral, parce qu'on s'est rendu compte que parmi les problèmes que nous avons, c'est les parties prenantes qui ne sont pas bien formées. Pour les professionnaliser, il faut qu'ils viennent apprendre à les faire. Et nous avons plusieurs programmes, mais il y a aussi des programmes de courte durée qui durent une semaine à 2 semaines pour se mettre à niveau afin de pouvoir prendre en charge les volets électoraux dans leurs structures respectives.
Avec une centaine de finalistes en gestion du cycle électoral, l'observation et la surveillance électorale depuis sa création il y a 13 ans, l'EFEAC a été d'un apport important dans l'organisation des élections en Afrique centrale en général et en RDC en particulier, a dit son directeur général qui a présidé cette double cérémonie. Ouverture hier à Kinshasa du séminaire de formation et d'information sur les conflits armés, les pillages des ressources naturelles et les violences extrêmes dans l'est de la RDC. Ces assises de 3 jours sont organisées par l'Institut congolais d'études avancées. Pour le directeur général de cette institution, le professeur Isidore Ndaiwel, ce séminaire va permettre à plus de 100 participants venus des provinces congolaises, d'Europe et des États-Unis d'Amérique de rétablir la vérité historique sur la guerre de l'est de la RDC. Notamment ses origines et ses conséquences, ce qui met en mal les mines, les forêts et toute la belle nature du pays. On écoute le professeur Isidore Ndaiwel dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La cause fondamentale, c'est le rapport difficile qu'il y a entre, d'un côté, une démographie galopante, c'est-à-dire une densité très forte, et des terres exiguës, insuffisantes. Il y a des frontières qui ont été mises en place, qui existent, qui sont permanentes. Nous sommes en train d'essayer de voir point par point quelles sont les différentes questions. La première question, c'est le problème du rapport terre et population. Le second élément, c'est la question des ressources naturelles. Pour le moment, nous sommes les seuls à fournir des matières premières revendiquées au niveau de l'économie mondiale. Nous sommes passés du caoutchouc rouge au coltan rouge. Je ne peux que saluer tous les efforts qui sont faits par le président de la République, par notre gouvernement, par notre armée, pour faire en sorte que, au moins dans l'immédiat, nous puissions arriver à une situation de paix, quand bien même cette paix sera bien sûr une paix quelque peu provisoire. Mais il faut au moins mettre fin au massacre des populations.
Rappelons que l'Institut congolais d'études avancées est privé et agréé par le ministère de la Recherche scientifique. Il a pour objectif d'élaborer le soutien et la promotion des recherches originales et innovantes sur le Congo dans la perspective de la renaissance africaine.
Actualité internationale.
Au Nigeria, plus de 140 personnes, dont des enfants, tués et des dizaines d'autres blessés. C'est après qu'un camion citerne d'essence renversé a explosé en flammes quand la population tentait de récupérer le carburant qui s'écoulait du véhicule. Information livrée mercredi par les services d'urgence.
L'invité.
Nous recevons le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, Mame Mandia Nyang, revient sur la décision portant réactivation des enquêtes par le procureur général de la CPI sur les crimes présumés relevant du statut de Rome commis en RDC, spécialement au Nord Kivu depuis janvier 2022. Il est avec Ronéline Tibonera.
Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, vous avez annoncé cette réactivation des enquêtes sur la situation dans l'est de la RDC. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Cela veut dire que nous allons reprendre nos enquêtes. Vous savez que, comme on l'a dit dans notre communiqué, c'est une situation qui a été ouverte depuis longtemps, depuis que nous en avons été saisis en 2004. Mais cette situation n'a jamais été fermée, mais on a eu une phase d'enquêtes actives qui ont conduit à certains procès. Bon, après quoi, même si la situation n'était pas formellement fermée, nous n'étions plus aussi actifs dans la façon dont on est organisé ici. Vous savez que quand il y a une situation, il y a des cas dont on s'occupe et il y a aussi une équipe qui s'en occupe. Mais à la faveur des différents cas que nous avons eu à amener jusqu'au procès, il n'y avait plus à proprement parler d'équipe désignée et assigné au cas de la RDC, même si la situation était en fait ouverte. Bon, ce que on veut dire maintenant par la réactivation, cela veut dire qu'il y a maintenant toute une équipe qui a encore été désignée et que nous allons en fait reprendre une phase active de ces enquêtes.
Vous parlez des crimes présumés relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est une déclaration de référence. Mais les crimes commis, vous savez, on les connaît. C'est-à-dire, dans le statut de Rome, nous avons 4 formes de criminalité qui sont prévues. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et ensuite le crime d'agression dont l'applicabilité est assujettie à beaucoup de conditions. Bon, dans ce qui concerne la RDC de façon générale, bon, en fait, même si c'est l'enquête qui va déterminer la nature exacte des crimes, Bon, mais la référence initiale, c'est surtout par rapport aux possibles crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Et pourquoi la demande introduite par la République démocratique du Congo a pris du temps pour être traitée, malgré l'urgence de la situation sur terrain, spécialement ce que la population est en train de vivre au nord Kivu?
C'est vrai que c'est une situation dont l'urgence s'est toujours révélée, mais il ne faut pas en fait aussi se tromper sur notre mandat. Nous ne sommes pas du Conseil de sécurité avec cette mission de venir arrêter les guerres. Bon, en fait, il s'agit de crimes commis sur lesquels nous enquêtons. Bon, il est vrai que depuis un certain temps et dans certaines situations, il nous arrive maintenant de plus en plus d'enquêter alors même que le conflit est en cours et c'est un peu ce qui est le cas aujourd'hui au niveau en fait, du Nord Kivu. Mais bon, en fait, dire que nous avons tardé à réagir, je crois que c'est aussi ne pas savoir tout le processus qui a été impliqué et qui a été mis en branle depuis longtemps. Nous avons quand même repris langue avec les autorités il y a un certain temps et il y a eu un certain nombre de gestes très forts qui ont été posés. Le procureur Kahn s'est rendu en RDC déjà il y a un peu plus d'un an. À la faveur de cette visite, un mémorandum d'entente a été signé parce que, comme vous voyez, la criminalité quand même en RDC est une criminalité très large. Et puis autant la CPI veut agir, vous savez que la CPI n'a pas vocation à appréhender la criminalité dans toutes ses formes dans un pays aussi immense et dans une criminalité aussi étendue.
Terminons notre entretien en plusieurs rapports publiés par les experts des Nations Unies. Démontre bien sûr le rôle du Rwanda dans la déstabilisation du Nord Kivu, mais ce pays n'est pas signataire du statut de Rome. Est-ce que cela ne pourrait pas-t-il bloquer la CPI dans cette démarche qu'elle a annoncée?
Bon, en fait, nous avons déjà indiqué clairement que la RDC est partie au statut de Rome et la RDC nous a saisi d'une certaine criminalité. Donc, nous allons encaisser. Ceci suffit pour nous donner compétence. Donc, comme vous le voyez, ça c'est pas propre à la RDC. Vous voyez que nous avons été très actifs, par exemple, en Ukraine. Ni l'Ukraine ni la Russie ne sont membres même de la CPI. Mais il y a des règles procédurales qui permettent notre saisine en acceptant notre juridiction, même quand on n'est pas État membre. Bon, dans le cas du Nord Kivu, en fait, pour une criminalité qui s'est produite dans le cadre d'un pays qui est membre, cela suffit amplement pour justifier notre compétence.
Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.